RCF.
Et on vous retrouve tout au long de cette semaine, Père Bernard Mainviel, vous êtes historien, théologien, et avec vous, on se rapproche des grands mystiques du Carmel. C'est une façon de comprendre ce que nous cherchons dans la prière ou dans la méditation. Et puis comment ces hommes et ces femmes, et notamment Thérèse de Lisieux, Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, ont trouvé des réponses à leur quête d'infini. Alors c'est une quête d'infini qu'on pourrait traduire aujourd'hui aussi par une quête de liberté et cette envie d'en finir avec nos asservissements. Bernard Mainviel, de quoi vous diriez que nous sommes aujourd'hui les esclaves ?
Nous sommes esclaves de beaucoup de choses et on vit dans une période où les addictions sont très à la mode, des addictions qui peuvent être aux substances, aussi au comportement, qui de nous n'est plus ou moins esclave des écrans aujourd'hui. On a tous beaucoup de difficultés à les mettre à distance, à pouvoir maîtriser notre usage des écrans. Ça n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. On pourrait aussi creuser et s'apercevoir qu'on est esclave du regard de l'autre, esclave de la mode, esclave du qu'en dira-t-on, esclave de la pensée à la mode, esclave de beaucoup de choses. En creusant encore plus profondément, on est esclave aussi de... Je pense aux paroles d'une chanson d'Eddie Mitchell, « J'ai commis le mal que je ne voulais pas, je n'ai pas fait le bien que je souhaitais. » Il est un peu tard pour appuyer sur replay. Cette expérience qu'il donne, bon, en fait, il cite Saint Paul sans le dire, c'est l'expérience du mal qui est en nous et qui est très, très profondément enraciné et qui est notre plus mauvais compagnon, celui qui fait que nous regrettons d'avoir dit la parole qui a blessé et qu'on a dit un petit peu... presque malgré nous, ou de tels gestes que nous n'avons pas fait pour autrui, etc., etc. Chacun peut décliner ça de multiples manières. C'est cette présence, vous voyez, d'un fond, je dirais d'une racine en nous, d'une sorte de logiciel piraté en nous qui fait que notre liberté n'est pas au service de nos désirs les plus profonds.
Mais alors, on est conscient de ça et on n'en veut plus. Et pourtant, exactement. On doit vivre avec.
Et
alors,
voilà.
Que faut-il faire ?
Alors, ça pourrait être très désespérant. Et de fait, que faire de ça ? Alors, la lutte, par exemple, contre les addictions, parce que tout ça, c'est un ensemble. Hein. Quand je pense au livre, très beau livre que Mathieu Ricard, Alexandre Jolien et Christophe André ont écrit, « À nous, la liberté », ils énumèrent beaucoup, beaucoup de pistes très intéressantes et ils réhabilitent notamment la piste de l'effort. L'effort quotidien, l'effort dans lequel, petit à petit, on adopte une mentalité de guerrier et on décide de prendre à bras le corps tel ou tel de nos défauts, tel ou tel de nos addictions, et avec l'aide des autres, en étant attentif notamment au cadre, en nous aidant de conseils, en soignant notre vie sociale, etc., petit à petit, on peut de fait obtenir de véritables victoires. Je crois qu'il y a là tout un champ qui a vraiment sa consistance. Faut pas, voyez, se tourner vers Dieu en oubliant, je dirais, tout ce domaine de travail sur nous-mêmes.
Mais alors pourtant, Sainte Thérèse ne fait pas du volontarisme. Parce qu'on l'entend faire ses efforts aussi. Elle dit d'ailleurs qu'elle fait des efforts.
Elle le dit. Et Thérèse d'Avila dit, il nous faut une détermination très déterminée. Je crois que cette espèce de redoublement montre que, de part et d'autre, on a des hommes et des femmes qui ne sont pas dans le farniente, dans l'indolence, ou simplement, disons, en attendant de Dieu, une libération qui ne dépendrait que de lui. Donc ça, gardons bien cette place. Et en même temps, de quoi les mystiques chrétiens sont-ils témoins ? Je dirais de trois choses par rapport à la liberté. Le premier point, c'est que Dieu libère notre liberté réellement.
Alors, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que c'est l'expérience que fait Thérèse de Lisieux. Elle a 14 ans à peu près. Elle est complètement ligotée, elle le dit, en raison de vieilles blessures psychiques de son enfance. Et je dirais son psychisme même est atteint. Bon. Et elle fait l'expérience, la nuit de Noël 1886, d'une véritable libération. « Alors, on pourrait dire, bon, on est dans le miraculeux, c'est pas tout à fait faux. Dans l'extraordinaire, c'est vrai aussi, dans la mesure où beaucoup d'entre nous ne connaissent pas ça et ne le connaîtront jamais. Mais ce qui est intéressant, je crois, c'est qu'il faut prendre cet événement comme ces vidéos accélérées qui nous montrent en l'espace de 3 minutes la construction d'un pont ou la fonte d'un glacier. On est exactement dans exactement ça. On est dans un raccourci de ce que Dieu fait réellement, je crois, à l'échelle d'une vie. Dans la mesure où on s'approche de lui, alors c'est toute la place de la vie sacramentale, de la vie de prière, dans la mesure où il y a cette relation en continu avec lui, régulière avec lui, réellement il nous libère. Alors il travaille dans le temps, ça ne se fait pas sans notre collaboration, mais il y a véritablement une libération. Et ça, tous les saints, c'est ça qui est extraordinaire, tous les saints en sont témoins. Ils sont témoins que cette espèce de lien très profond qui est en nous, qui fait que notre liberté ne fait pas le bien qu'elle voudrait faire, qu'elle fait au contraire le mal qu'elle regrette après coup d'avoir fait, il y a véritablement une libération. Le deuxième point, je crois, c'est que Dieu nous donne le mode d'emploi de notre liberté. On parle des commandements, je crois qu'il faudrait la Bible en parle d'une manière beaucoup plus positive en disant, mais c'est une sagesse que Dieu nous donne. Un mode d'emploi, un chemin de bonheur, un chemin d'épanouissement, un chemin d'humanisation véritable, ça oui. Et puis le troisième point, c'est que Dieu offre, en tout cas, une finalité à notre liberté. Notre liberté pour quoi faire ? La liberté n'est pas une valeur absolue, elle est une valeur relative, elle est au service de quelque chose de plus grand. Ce qui est important, ça n'est pas tant, oui, d'être libre, mais d'abord d'être heureux.
Justement, il y a un point intéressant que vous abordez qui est peut-être une forme d'esclavage qui ne dit pas son nom, c'est quand justement on va chercher ses progrès spirituels, on va chercher à mesurer son niveau spirituel, vous appelez à se désencombrer de son avancement, quand on commence à chercher les expériences mystiques, quand on commence à penser que notre rectitude morale est acquise, ça c'est aussi une forme parfois qui nous menace d'esclavage, entre guillemets.
Oui, on est très tenté évidemment de mettre en avant nos états de service ou alors de travailler la vie spirituelle comme si c'était du bodybuilding. Ça n'est évidemment pas ça que nous montrent les grands mystiques, les grands spirituels. Il y a une désappropriation complète de leur part. Et ce qui joue aussi en positif, c'est-à-dire que lorsqu'il leur arrive une chute, lorsqu'il leur arrive de tomber comme chacun de nous, ça n'est pas un drame. Ça n'est pas un drame. Ils ne sont pas, voyez, omnubilés par une stature à atteindre. Ils ne marchent pas sur la pointe des pieds pour se faire plus grands qu'ils ne sont. Mais c'est là encore où on retrouve la vérité sur soi. C'est vraiment le chemin pour eux. Accepter la vérité sur moi et la vérité fondamentale, je crois, c'est que oui, il y a du bien en moi, mais c'est un bien reçu. Et garder, voyez, cette conviction toujours que les vertus qu'on peut acquérir, qui de fait ont de la valeur, et toutes les expériences spirituelles qu'on peut faire, ne sont pas une propriété, vous voyez. On ne thésaurise pas les dons de Dieu. Et c'est vraiment, ils vivent dans une pauvreté réelle à ce niveau-là.
Ils ont envie aussi. Il y a une forme de distance, en fait, qui est assez. Quand on lit Thérèse, c'est assez drôle, parce qu'elle est complètement moqueuse, presque, par rapport à elle-même sur ses efforts.
Tout à fait, oui.
Alors, si on revient à la méditation, parce que d'aucuns vont vous dire que. Mais eux aussi, ils cherchent à progresser. Alors, est-ce que vous faites la différence avec la méditation chrétienne sur les objectifs qu'on pourrait se fixer? C'est-à-dire, est-ce que s'extraire du stress, s'extraire de la souffrance, être moins submergé, c'est finalement des conséquences plutôt que des objectifs vraiment à se fixer? Est-ce que vous diriez que c'est ça la différence? Tous ces efforts qu'on entreprend pour justement se détacher de notre mal, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui font de la méditation pleine conscience, par exemple?
Je crois que la méditation de pleine conscience, bon, là encore, hein, il faut voir un petit peu comment chacun le pratique, mais ça peut être vraiment une aide. Beaucoup de personnes sont libérées déjà par la pratique de la méditation de pleine conscience, sont libérées de beaucoup de liens, et tant mieux, tant mieux. Déjà, le fait de pouvoir s'arrêter, vous voyez, de pouvoir habiter son présent, de pouvoir vivre la relation avec l'autre, en étant vraiment présent à l'autre, présent à son environnement, présent à soi, c'est déjà un gain extraordinaire, et tant mieux. Vous voyez, il n'y a pas de concurrence. On est vraiment sur des plans différents, en fait. Il y a une place... Alors, on n'est pas obligé, évidemment, comme chrétien, de faire de la méditation de pleine conscience, c'est clair. Mais je crois que ça aide beaucoup de personnes, chrétiens ou non-chrétiens, hein, déjà dans leur vie. Et ça ne me pose aucun problème. Si vous voulez, je me situe un petit peu différemment en disant à des personnes qui font la méditation de pleine conscience, par exemple, voilà, vous avez le désir d'être présent, d'être pleinement présent, et de fait, c'est vraiment inscrit dans la démarche de pleine conscience, d'être davantage présent à son environnement, que ce ne soit plus seulement une sorte de toile de fond, vous voyez, qu'on traverse à toute vitesse, mais qu'on prenne déjà le temps d'écouter la nature autour de nous, qu'on prenne le temps déjà de respirer, vous voyez, de pouvoir gonfler et de sentir nos poumons se remplir d'air. Déjà, réhabiter notre corps, réhabiter notre corps dans sa relation avec notre environnement, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Dans cette présence, j'ai envie de dire à ceux qui font de la méditation de pleine conscience, poussez la logique jusqu'au bout. C'est-à-dire, vous avez le désir d'être absolument présent à tout, présent à votre esprit, présent à l'environnement, présent aux autres. Et si vous étiez aussi présent à celui qui peut-être est là, si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez simplement dire, si tu existes, j'ai envie d'être présent aussi à toi. Vous voyez, élargir cette présence à tous les possibles. Alors, pour le chrétien, évidemment, ça n'est plus seulement impossible. Il y a pour lui la conviction de foi que Dieu est là. Mais voyez, c'est pousser la logique de la pleine conscience jusqu'au bout.
Merci Bernard Marvielle, vous êtes prêtre, historien et théologien et l'auteur de « Pourquoi la méditation ne suffit pas ?».